C'est, je demande à notre sœur Ruth de prier pour ce moment de rencontre, de prière, afin que le Saint-Esprit puisse guider ce moment de méditation de la parole de Dieu. Prions avec notre sœur Ruth.
Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu nous as accordé en ce jour, pour ta paix, pour ta joie, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, durant cette semaine. Père éternel, tu as permis que nous soyons vivants, nous soyons en vie. Tu as permis que nous soyons sauvés par ton Fils Jésus-Christ. Tu as permis que nous nous retrouvions sur cette ligne, Seigneur. Chaque soir, depuis un certain temps, pour méditer ta parole, pour sonder tes écritures, Seigneur, pour communiquer avec toi. Éternel, pardonne tous nos péchés, tout ce qui va faire que le Saint-Esprit ne puisse pas avoir accès à notre esprit pour nous parler, pour nous éduquer, pour nous formater. Éternel, fais en sorte, Seigneur, que le Saint-Esprit soit le seul, le seul. Comment je peux dire ça, celui qui tient les rênes, Seigneur, de cette réunion, que ce soit le seul à nous parler, Seigneur. Père éternel, dans un monde où il y a tellement de choses qui arrivent, où les gens n'ont plus de repères, où on fait face à des situations, Seigneur, qui nous dépassent, où on se demande où tu es, Seigneur. Permette, Seigneur, que ce soit, quand nous sondons tes écritures, Père éternel, que le Saint-Esprit puisse nous parler. Seigneur, je permets, Seigneur, qu'on ressorte de cette réunion sans que le Saint-Esprit nous parle, sans que le Saint-Esprit nous dise ce qu'il a envie de nous dire, sans que le Saint-Esprit nous éduque, sans que le Saint-Esprit nous donne une direction. L'un de tes disciples a dit dans la Bible, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Éternel, sans ta direction, nous sommes perdus. Ne permets pas, Seigneur, que l'on puisse tous sur cette ligne, Seigneur, ne permets pas qu'on puisse ressortir de ta présence sans avoir une direction de ta part. Père éternel, je plonge tous ceux qui sont sur cette ligne, ceux qui vont arriver comme ceux qui sont déjà là dans le sang de l'agneau. Je plonge, Seigneur, le modérateur, Seigneur, qui va nous conduire dans la lecture, dans le sang de Jésus. Père éternel, je plonge nos oreilles dans le sang de Jésus, notre compréhension dans le sang de Jésus, pour qu'elle puisse s'ouvrir et pour qu'on puisse recevoir de toi correctement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
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 Merci beaucoup, ma sœur Ruth, pour la prière. Bien-aimés, nous avons rendez-vous comme notre sœur Ruth vient de le demander. Nous avons besoin de cette direction de la part du Saint-Esprit, lui qui nous transmet tout ce qu'il entend auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le passage d'aujourd'hui est dans Genèse, chapitre 35, versets 16 à 29. Genèse 35, 16 à 29. Nous allons demander à notre sœur Agnès de bien vouloir nous lire ce passage. Ce passage qui vient avec deux questions. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? Et la question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Suivons alors la lecture avec notre sœur Agnès dans Genèse 35, 16 à 29.
Merci, pasteur. Je lis dans 8 secondes. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Éphrata lorsque Rachel accoucha et elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, ce monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et lui dressa sa tente au-delà de Migdal et d'Er. Pendant que Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Naphtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padam Aram. Retour de Jacob chez son père, mort d'Isaac. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Marmé, à Kirja Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans, et il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Esaü et Jacob l'enterreur. C'était la parole de Dieu.
Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu des armées. Merci beaucoup, ma sœur Agnès, pour la lecture. Bien-aimés, si nous avons médité aussi les passages d'hier, Jacob retourne à Bethel. Ce retour lui a exigé certains sacrifices. Jacob exige à toute sa maison de se débarrasser de tous les dieux étrangers au milieu d'eux et d'échanger aussi leurs vêtements. Qu'en est-il de moi lorsque je me prépare à rencontrer l'Éternel Dieu des armées? Qu'en est-il dans ma communion avec l'Éternel Dieu des armées? Comme Dieu avait changé le nom d'Abraham d'Abraham à celui d'Abraham, ainsi Dieu changea aussi celui de Jacob à celui d'Israël. Et Dieu lui renouvela toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham. À partir du verset 16, Jacob vivra presque quatre événements importants et douloureux. Premièrement, la naissance de Benjamin. Dieu est fidèle et les noms que nous donnons à nos enfants sont très significatifs. Rachel, en donnant les noms de Joseph à son premier fils, mais celui auprès duquel elle lui donna les noms de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Notre Dieu est fidèle, il vient de le faire. Le deuxième événement, après l'accouchement de Benjamin, Rachel meurt. Alors, il y a certaines questions qui nous sont posées. Est-ce que Rachel avait-elle restitué le Dieu de Laban qu'elle avait volé? Est-ce Jacob avait-il renoncé à ses paroles lorsqu'il avait dit à Laban, mais celui auprès duquel tu trouveras que Dieu il laissera la vie. Troisième événement, son fils aîné Ruben coucha avec sa concubine Bila, celle qui était la servante de Rachel. Et le quatrième événement, Israël devient orphelin de mère et de père. Isaac, son père, mourit et il fut enterré par Israël et Ésaü, son frère. Comment est-ce que j'ai réagi dans ma marche avec Dieu devant certaines situations qui me sont contraires? Nous avons médité ces passages. Nous voyons la vie de Jacob, dont le nom a été changé par Dieu et il est appelé Israël. Comment il a marché avec l'Éternel et les situations qui entourent son retour. Nous voulons mettre cela en commun pour être édifiés. Et ce passage qui nous est accordé, Dieu l'a accordé afin que nous soyons instruits, afin que nous puissions nous mettre en communion avec lui. Et il y a des bénédictions lorsque nous marchons dans l'obéissance à cette parole. Bien-aimé, je donne la parole à l'Assemblée afin que nous puissions encore nous édifier ou encore affermir ce que l'Éternel a déposé en chacun de nous tout le long de la journée. Mettons cela en commun pour que tous nous puissions croître pour la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Merci beaucoup. Je voyais le nom de AMC6, donc le numéro de courriel. Je ne sais pas, Pasteur Céleste, si c'est un frère qui vient pour la première fois ou bien c'est un nom que, dont moi je n'ai pas les coordonnées. AMC6 Yao.
Oui, c'est la sœur, mais elle est disconnectée. C'est la sœur, la nièce à Médard, là, mais elle est disconnectée sur mon écran.
Ok. Je vais veiller quand elle sera reconnectée. Nous pourrons toujours la recueillir. Merci beaucoup. Bien-aimés, la parole est à l'Assemblée. Nous avons 2 minutes pour dire ce que le Saint-Esprit a déposé à nous et nous pourrons encore redemander la parole pour nous édifier de plus en plus. Merci beaucoup. La parole est à l'Assemblée. Il voudrait
oui,
briser la grâce, le premier. Oui, Pasteur José, des États-Unis.
Oui. Merci. Merci, notre frère Gaston. Frères et sœurs, je suis au verset 16. Je vais surtout parler de la naissance difficile ou pénible, ça dépend de la version que Rachel a eue. La naissance fut difficile ou pénible. Ceci est conforme à la parole du Seigneur prononcée à nos deux premiers parents, prononcée principalement à Ève, au verset 16 du chapitre 3 de la Genèse. Il est dit, le Seigneur dit ensuite à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénible, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. » Oui, ce qui est arrivé ici à Rachel, et c'est toujours la parole du Seigneur qui se réalise de jour en jour. Et cette parole, et surtout ce que nous avons ici, me donne toujours beaucoup de respect à ma mère. Même si elle n'est pas morte quand je naissais, mais la grossesse, selon le Seigneur, n'est pas une chose facile. Dans notre coutume, lorsque une femme accouche, quand les gens viennent la féliciter, on dit toujours, tu es rentré de la guerre. Tu es rentré de la guerre. C'est pour montrer que l'accouchement, ce n'est pas facile. Ainsi, je pense bien que tous les frères qui sont là et moi, nous sommes appelés à renouveler notre respect, profond respect à nos mamans. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis, de nous rappeler cela. Et selon ce passage de Genèse 3, 16, nous devons soutenir nos mamans qui attendent famille, car ce sont des moments très difficiles et pénibles, comme le pasteur a utilisé ce passage, elle est rentrée de la guerre. Donc, elle était au front et elle vient de rentrer à la maison. Nous devons les soutenir et nous leur devons du respect. Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Nous accordons la parole au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, merci Papa Gaston pour la parole. Je suis au verset suivant. C'est le verset 17. Au verset 17, les questions de l'accouchement. Et la femme sage va effectivement dire à Rachel, « Sois sans crainte, car tu as encore un fils. » Le mot « encore » signifie qu'il y avait un fils précédemment. Et le fils de Rachel qui est venu précédemment, c'était Joseph. Et quand Rachel avait eu Joseph, elle a donné à cet enfant le nom Joseph, qui signifie que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'était une prière simple. Mais c'était une prière qui était écoutée par le Seigneur. Et que nous voyons que Benjamin qui arrive, c'est l'exaucement d'une prière très simple. Voilà pourquoi quand nous avons prié un jour pour quelque chose, ne pensons pas que Dieu n'a pas entendu. Dieu agit en son temps, mais il écoute même les soupirs intérieurs quand nous lui demandons. Et la femme, quand elle dit « Sois sans crainte, c'est encore un fils », elle ne sait pas qu'elle est en train de prononcer les paroles pour réellement montrer que c'est l'exaucement à ta prière. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur Célestin. Dieu écoute nos prières et les exauce. Nous devons tout simplement avoir confiance. Ne crains point. Et chaque demande que je formule à l'Éternel des armées, que j'en sois conscient, que l'Éternel écoute et il va répondre. Même cela nous interpelle aussi à veiller à certaines paroles que nous prononçons. L'impact de nos paroles, de ce que nous disons, a toujours des effets. Dieu a reçu la demande et il a apporté la solution, la réponse. Et dans sa fidélité, voici que Benjamin vient de voir le jour. Notre Dieu est grand et il est fidèle. Nous sommes au verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Ici, Rachel est en train d'exprimer ce qu'elle ressent et ses désirs. À la naissance de Joseph, elle a demandé à ce que Dieu lui donne un autre enfant. Et par la naissance de Benjamin, le nom qu'elle donne, c'est pour exprimer toute cette douleur qu'elle est en train de ressentir. Comme le pasteur José le disait, elle était au front. et elle doit maintenant accepter que l'enfant naisse et elle va partir. Elle va mourir. Elle va mourir. Elle donne les noms en fonction de ce qu'elle ressent. Cela nous interpelle aussi dans les noms que nous donnons à nos enfants. Et dans ces noms, nous devons plus glorifier le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Mais le Père ici a réagi rapidement. Il y a des personnes qui s'appellent, tu lui demandes quel est ton nom, mon nom est Misère. Nous devons veiller à certains noms. C'est ainsi que Jacob a réagi pour que l'enfant puisse s'appeler Benjamin. Merci beaucoup. Nous accordons la parole à Maman Christine ou au Pasteur Célestin.
Oui, merci beaucoup, Papa Gaston, encore pour la parole. Je suis dans le même verset. Le verset 18, bien sûr. Rachel, elle est vraiment mourante. Elle va appeler Ben-Oni, le nom de cet enfant. Ben-Oni signifie « fils de ma douleur ». La compassion pouvait ne fût-ce que donner à Israël de laisser ce nom parce que c'est le nom d'une personne qui est en train de partir, une personne qui meurt. Mais il voit bien sûr, s'il laisse cela, cela va avoir des conséquences sur la vie de son enfant. Il va prendre la position d'autorité. En tant que chef, il va refuser ce nom pour donner un autre nom. C'est ainsi que lui, il va donner le nom de Benjamin. Et Benjamin signifie fils de la droite ou fils du côté favorable, juste en opposition au côté gauche ou côté faible ou côté néfaste. Donc, nous voyons l'exemple d'un père qui prend son autorité en tant que chef et qui sécurise en fait l'avenir de cet enfant. Ça, c'est vraiment un exemple à suivre. Amen.
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 Merci beaucoup, pasteur, pour cet exemple à suivre. Cela interpelle tous les frères papa pour que nous puissions jouer notre rôle en tant que papa chef de famille et en conformité de la parole du Seigneur. Et aussi, la femme qui avait exprimé ses sentiments, c'est ce qu'elle ressentait, mais quand elle est à côté du mari, elle a accepté la décision prise, là c'est moi qui l'ai dit, prise par son mari. Quand le mari a dit non, l'enfant devra s'appeler du nom de Benjamin. Et il y a parfois des chicanes, et souvent que nous voyons la femme, non, je voudrais donner le nom du côté de ma famille, et du côté, les maris du côté de ma famille. Mais qu'est-ce que signifie, quelle est la portée de ce nom-là? Et nous devons y veiller parce que l'avenir de nos enfants en dépend. Merci beaucoup, Pasteur Célé. Nous donnons la parole à notre bien-aimé Thomas.
Oui, bien-aimé, je voulais parler de la mort de Rachel. C'est une mort qui vient quand même assez tôt dans sa vie. Elle meurt tôt et parce que son fils-là, Joseph, n'est pas encore même aller donner la nourriture chez ses frères pour qu'ils soient vendus à 17 ans. Mais elle meurt déjà. Elle meurt très tôt. Elle meurt avant pratiquement son mari. Elle meurt avant sa sœur. Elle est la petite sœur. Mais nous allons nous souvenir au chapitre 31 qu'elle a volé les dieux de son papa. Elle s'est assise sur ça. Et puis quand son père est venu demander ses dieux à lui, ses idoles, Jacob était fâché. Il a dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me poursuis. Au verset 31 du chapitre 31 et 32. Il a dit que si tu trouves une personne avec tes dieux-là, il ne vivra pas. Cette personne-là va mourir. Et alors Laban a commencé à chercher, mais Rachel a menti qu'elle était dans ces périodes, donc elle ne pouvait pas se lever, alors qu'elle était assise sur le fétiche là et les idoles là, sur son cheval. Donc elle ne s'est pas levée. Mais cette parole, cette sentence était déjà prononcée. Donc je me dis peut-être, est-ce que s'il n'y avait pas cet incident, peut-être elle allait mourir à un autre temps que maintenant. Parce que la Bible dit, pourquoi mourriez-vous avant votre temps? Moi, je pense que parfois, c'est possible de se précipiter devant la mort. À la mort, parce que la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et pas la mort. Donc, c'est une réflexion seulement que j'amène. Faisons attention aux paroles que nous prononçons aussi. Parce que Jacob a prononcé cette sentence sans connaître que sa femme, sa deuxième femme, Rachel, était la personne qui était ça. La même chose avec le roi Hérode. Il avait dit à la fille qui a dansé, tout ce que tu vas demander, même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Et la fille a demandé la tête de Jean-Baptiste. Merci.
Merci beaucoup, Père Thomas, de nous rappeler d'éveiller parfois à l'émotion qui nous anime lorsque nous voulons faire des déclarations et des déclarations très importantes. Il y a toujours des conséquences de ce que nous prononçons. Nous avons vu les noms que Rachel a donné à Joseph. Par ces noms, elle demandait notre enfant à Dieu. Donc ces paroles-là sont arrivés devant les trônes de Dieu. Et quand Laban est arrivé, elle voulait savoir pourquoi on avait volé ce Dieu. Jacob, en âme et conscience, parce qu'il se disait qu'on ne pouvait pas voler les dieux de Laban, il a dit, si, veille, tu vas vérifier, mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. Il ne savait pas que c'était sa femme. Bon. Nous ne disons pas qu'elle est morte nécessairement à cause de cela, mais c'est une réflexion. Une porte, une fenêtre qui est ouverte et nous faisons cette réflexion-là. Est-ce que Rachel avait restitué ses dieux? Est-ce que Jacob avait-il renoncé à ses paroles qu'il avait prononcées? Il était sincère, mais sans savoir que dans sa propre maison, c'est là où se trouvaient ces dieux-là. Chaque fois que nous faisons des déclarations, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Il va nous dire ce que nous devons déposer, ce que nous devons déclarer. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit qui doit canaliser nos décisions et certaines prises de nos positions. Merci beaucoup, bien-aimé Thomas. Nous accordons la parole au pasteur José du Canada.
Merci, frère, pour la parole. Je suis intéressé par la question de la douleur que vit Jacob. Dans le texte précédent, nous avons vu qu'il avait perdu la nourrice de sa mère. Et ici, il perd la femme qu'il aimait. Que Jacob est la personne à qui Dieu a parlé à un bon nombre de fois. Son chemin et les lieux même où il se trouve, où il s'en va, c'est sous la conduite de Dieu. C'est le Seigneur qui lui a dit, maintenant lève-toi et tu vas à Bethel. là où je te suis apparu, et on voit effectivement que il était, en fait, par rapport à mettre un peu d'ordre dans sa vie et sa famille, il a demandé à tout le monde de se débarrasser des idoles pour n'avoir que l'Éternel Dieu qui serait seulement son Dieu et pas quelqu'un d'autre. Et subitement, on voit aussi que c'est une personne qui passe par des épreuves. La douleur, la souffrance, et perdre surtout quelqu'un que l'on aime, c'est très accablant. Ça nous montre tout simplement ce que nous disons bien souvent, que le fait d'être dans la foi ne nous épargne pas des douleurs, des souffrances, des épreuves, etc. Mais la question ici est, qu'est-ce que je fais lorsque la douleur est là? Comment je la vis? Comment nous avons deux réactions dans le verset 18. Il y a des personnes qui veulent, au fait, éterniser leur douleur ou, disons, marquer leur douleur de manière spéciale, indélébile, permanente, peut-être, dans ce cas ici, en donnant un nom qui rappelle une douleur. De l'autre, il y a ceux dont le psaume 84 parle. Psaume 84, je pense le verset 6 et 7, la Bible nous dit que l'homme de Dieu ou la personne qui a la foi en Dieu devra un jour ou l'autre passer par la vallée de la Baca, c'est-à-dire la vallée des larmes. Et ceux qui ont foi en Dieu, ceux qui comptent sur Dieu, qui s'appuient sur Dieu, lorsque le moment est venu où ils sont dans la vallée de Baca, la Bible dit qu'il la transforme en un lieu plein de ressources. Et la pluie printanière va l'arroser et au fait, ils vont s'en sortir. Je voudrais me dire que la douleur peut être là, l'épreuve sera là, mais que je sache comment en sortir en m'appuyant sur le Seigneur, en lui faisant confiance qu'il gère toutes les circonstances qui sont pénibles. Voilà.
Merci beaucoup, pasteur José du Canada, de nous rappeler ces retours, ces sacrifices et ces épreuves dans lesquelles Jacob se retrouve. Merci beaucoup, pasteur. Et nous continuons avec sur cette lancée avec ce que le pasteur José du Canada venait de dire. Nous sommes au verset 22. Pendant que Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël la prit. Le chemin de retour de Jacob s'amorce avec beaucoup d'épreuves, de douleurs. Ce qui m'a beaucoup interpellé ici, je ne vois pas la révolte de Jacob. Et souvent, quand de telles situations m'arrivent, nous arrivent, nous cherchons toujours le bouc émissaire. Dieu, si tu ne m'avais pas demandé de retourner à Bethel, cette situation ne me serait pas arrivée. Parce que là où je vivais, je contrôlais déjà la situation et je suivais même de loin les mouvements de mes femmes, mes concubines, de mes enfants. Et parfois même, on dit, mais si je n'étais pas retourné, cette situation ne serait pas arrivée, alors j'abandonne. Et je donne un congé à l'Éternel, Dieu des armées. Mais il a appris, la Bible dit, il a appris et nous verrons comment il va se comporter après quand il va donner des héritages à ses enfants. Lorsque nous apprenons une situation, que nous soyons dans la sagesse de l'Éternel pour savoir comment nous comporter et quelles décisions nous devons prendre. Merci beaucoup. Nous accordons la parole au notre bien-aimé pasteur Thomas Mabiala.
Famille que Ruben Vous m'écoutez? Oui. Je suis déçu vraiment par le comportement et le péché de Ruben, parce que Bila n'est pas une simple concubine, c'est la femme de son père. C'est la femme de son père avec laquelle il a eu Dan et Naphtali. Il ne peut pas coucher la femme de son père. La Bible va dire en Lévitique, chapitre, dans le cas la loi va venir, chapitre 8. La Bible va dire au verset 8, « N'aie pas de relations sexuelles avec la femme de ton père, c'est déshonorer ton père. » Mais au chapitre 20, au verset 11, il va préciser, Dieu va préciser dans sa loi que si un homme fait des relations a des relations sexuelles avec la femme de son père, il a déshonoré son père. Les deux, l'homme et la femme, on doit les tuer et leur sang va tomber sur leur propre tête. Voilà donc la loi de Dieu. Et Dieu va nous montrer aussi dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens chapitre 5, où on parle de ces désordres de mariage, que ce n'est pas de Dieu cette affaire-là. C'est très mauvais, l'inceste. Et surtout, quand c'est une femme de la couche de ton père, c'est une ignominie, c'est vraiment une abomination. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous garde des relations sexuelles avec des membres de famille. Les relations sexuelles, pour le chrétien, ça doit se faire entre deux mariés seulement. Fouillons donc l'impudicité, quel que soit un péché qu'un homme commet, ce péché est en dehors du corps. Mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche aussi contre son propre corps, selon 1 Corinthiens 6, 18. Et nous ne nous appartenons pas, nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans notre corps et esprit qui appartiennent à Dieu. Merci.
Merci beaucoup, bien-aimés. Veillons parce que notre corps ne nous appartient plus. Il appartient à l'Éternel Dieu des armées. C'est le siège du Saint-Esprit. Ruben coucha avec Bilha, la concubine de son père, la femme de son père. Bien-aimés, nous devons, comme notre frère vient de le dire, nous devons veiller. Si la Bible les déclare tout haut, ce sont des choses qui se passent encore dans certaines familles. Nous devons y veiller. Et si cela est arrivé, les gens doivent se repentir et briser ces liens. C'est mauvais et de violenter ou de rester, de maintenir l'inceste au sein de la famille. Jésus-Christ est venu tout payer sur la croix et nous devons mettre de l'ordre dans notre vie et combattre l'inceste. Si elle n'est pas combattue, elle va se répercuter. Nous devons renoncer à cela, les détruire et les combattre et prier et purifier. Jacob a demandé aux gens de sa maison de se débarrasser des dieux étrangers et de changer de vêtements. Okay. On doit laver ce vêtement qui est dans le sang de l'agneau pour qu'on devienne plus blanc que de la neige. C'est très important. Merci beaucoup, notre bien-aimé Thomas.
Je veux dire quelque chose.
Merci, pasteur. Vous avez la parole.
Oui, c'est toujours à propos de l'homme qui a commis l'inceste. Au chapitre 49, verset 4, lorsque papa Israël a donné des bénédictions à ses enfants, voici ce qu'il dit à propos de Ruben. Je prends seulement le verset 4. Tu es un torrent impétueux, pourtant tu ne seras plus le premier, car tu t'es déshonoré en entrant dans mon lit avec une de mes épouses. Ce qu'il a reçu de son père comme souhait, comme malédiction, perdre son droit d'aînesse. Voilà. À cause de l'inceste, c'est vraiment pénible. Et nous devons, comme l'a dit le frère, vraiment éviter de commettre un pareil péché. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis, de nous rappeler et de nous donner encore les versets qui montrent la conséquence et comment Israël s'est comporté devant cette situation de son fils Ruben. Merci beaucoup. Nous accordons la parole à notre sœur Ruth. Ma sœur, vous avez la parole.
Je peux poser une question?
Vas-y, ma sœur.
Ok, c'est à propos de ce que le pasteur vient de dire. Quand il parlait de Ruben et de sa prééminence qui a perdu son droit d'aînesse, quand Jacob a maudit, parce que effectivement c'est une malédiction, quand Jacob a maudit Ruben, la malédiction se répercute sur les enfants de Ruben. N'aurait-il pas mieux valu que Jacob punisse son fils sur le champ? Parce qu'en maudissant Ruben, il maudit également toute la génération. Les enfants qui viennent après vont hériter de quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Donc ça aussi, personnellement, je trouve ça un peu méchant. Il n'aurait pas pu, limiter les dégâts, si je puis dire. Punir uniquement son fils et pas la génération qui vient après. C'était ma question.
Merci beaucoup, ma sœur Ruth. Que Dieu soit glorifié parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nos frères vont intervenir et nous aurons les éléments de réponse à votre question. Nous donnons la parole à notre bien-aimé Thomas.
Oui, c'est en réponse pour la sœur. Jacob est inspiré par le Saint-Esprit. C'est Israël, le père de la nation de Dieu, celui que Dieu a dit que Abraham deviendra une grande nation, celui-là, le Jacob. Donc, ce qu'on lit là, qu'il a béni ses enfants, la Bible dit c'est par la foi, en Hébreux chapitre 11. C'est par la foi qu'il a prononcé ces paroles, c'est par le Saint-Esprit. Donc, quand il est en train de prononcer ces paroles, il est dit en Hébreux 11, verset 21, c'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Donc, c'est tout ce qu'il a dit là, ce n'est pas venu de lui, c'était de la part de Dieu. Et il a maudit, donc, il a dit à ce qu'il a dit, il a dit à Jacob. Et en le disant à Jacob, c'est Dieu qui détermine qui d'autre est frappé par ça, parce que la malédiction sans cause n'a pas de fait. Mais cette malédiction aussi, elle a de la cause parce qu'il a commis le péché et Jacob va lui dire ça, mais la bénédiction qu'il a donnée, ce qu'il a prononcé sur tous les enfants, ce n'était pas lui qui parlait, c'était Dieu qui parlait à travers Jacob, qui est Israël. Merci.
La malédiction prononcée sur Ruben. C'est ce que les frères voulaient dire. Merci beaucoup, bien-aimé frère Thomas. Nous continuons, nous pourrons revenir sur les versets précédents, comme nous pouvons aussi parler de la mort du père de Jacob. Merci beaucoup. Ma sœur Agnès, vous avez la parole.
Merci pour la parole, pasteur Gaston. Je suis sur la mort de Rachel. Je voudrais savoir, c'est une question, est-ce qu'elle avait remis les terrassins qu'elle avait pris quand son mari, Jacob, avait dit « Donnez tout ce que vous avez des dieux étrangers » pour monter à Bethel. Je ne sais pas si elle avait remis ou pas. Bon, des fois, on s'attache aux choses qu'on n'en a pas besoin parce qu'ils étaient déjà bénis. Je ne vois vraiment pas pourquoi elle restait avec le terrassin en question. Bon, je ne sais pas, c'est à cause de ça que le Seigneur l'avait puni ou bien c'est quelque chose qui devait seulement arriver. Merci.
Merci beaucoup, ma sœur Agnès. Il y a des frères qui vont intervenir, nous donner un élément de réponse à cette question. Alors, j'accorde la parole au pasteur José du Canada. Pasteur, vous avez la parole.
Oui, rapidement, pour la question de notre sœur Agnès, le verset 3 et 4 du chapitre précédent nous donne déjà une réponse parce que lorsque le Seigneur est revenu parler à Jacob pour lui dire de partir, de retourner dans la terre où le Seigneur s'était révélé à lui, Jacob a fait une purification de sa maison, de sa famille. Le verset 2 du chapitre 35, si vous pouvez regarder, il va demander à toute sa famille et à tous ceux qui sont avec lui. C'est pas seulement ses femmes, ses enfants, mais tous ceux qui étaient avec lui, notamment ses serviteurs, dotés des dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux, de se purifier et de changer de vêtements. Le verset 4 dit que, en fait, en parlant de ils, donc tous, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Donc on peut supposer que Rachel avait fait la même chose. D'autant plus qu'il n'y avait plus la menace de son père qui le suivait. Sur la question des malédictions qui peuvent s'abattre sur le reste de la famille alors que c'est le père ou le patriarche qui est coupable, il y a eu des situations comme ça dans le passé. Dans l'Ancien Testament, Dieu a prononcé des malédictions qui sont rester attaché à la famille entière et le Seigneur va nous donner aussi d'autres réalités en disant l'habitude était que les parents ont mangé des raisins secs, des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui sont restées agacées. Comme pour dire que les enfants payaient pour les conséquences de ce que les parents avaient fait. Le Seigneur va dire dans la suite non, il n'en sera plus ainsi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En d'autres termes, les enfants ne devraient pas payer pour les fautes des parents. Lorsque Caïn a péché, le Seigneur lui a dit, le péché couche à ta porte. Et cela, c'est une vérité aussi pour les autres qui vont venir après. Ils auront toujours le péché couché à leur porte. Mais Dieu avait dit, si tu te conduis bien, si tu agis bien, tu vas dominer sur ce péché-là. Donc, c'est une réalité qui montre que si j'ai été attaché à une famille à laquelle il y avait une certaine malédiction attachée, en Jésus-Christ aujourd'hui, parce qu'il a été pendu au bois et que j'ai cru en lui, la Bible dit qu'il a été maudit afin que nous ne le soyons pas. Donc, nous pouvons nous affranchir des choses auxquelles nous n'avons pas pu participer lorsque nous nous réfugions en Jésus-Christ. Voilà.
Oui. Merci.
Merci beaucoup, pasteur José du Canada. Jésus-Christ est notre refuge. Il est le refuge de toute notre vie, de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Et il a tout accompli sur la croix de Golgotha pour nous. Merci beaucoup de cet élément pour notre sœur Ruth et pour notre sœur Agnès. Frère Thomas, vous avez la parole.
Oui, je voudrais parler en appui au pasteur, sa réponse, pour ajouter seulement, renforcer seulement la pensée que nous devons lire tout ce que nous lisons aussi dans l'Ancien Testament dans les yeux de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous, quand Jésus est venu, comme il l'a dit en Galates 3, 13, 14, la Bible dit que le Seigneur, il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, lui, Christ étant devenu malédiction pour nous, comme il est écrit, maudit soit quiconque soit pendu au bois, afin que pour les païens que nous étions, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Donc nous, Jésus a pris notre malédiction, il est devenu malédiction en mourant à la croix et en revanche, il nous a donné la bénédiction d'Abraham et puis il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que la Bible va dire que nous qui sommes en Jésus-Christ, selon Paul aux Éphésiens, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Ce n'est plus possible de maudire donc le chrétien. Il est béni par Dieu par toutes sortes de bénédictions en Christ. Et nous avons la bénédiction d'Abraham en Christ et le Saint-Esprit nous a été donné. Merci.
Merci beaucoup, frère Thomas, encore ces précisions. Que Dieu soit béni. Nous allons accorder la parole au pasteur Célestin à Maman Christine. Dans l'entretemps, notre sœur Louboula va se préparer pour nous lire les commentaires de ce passage et commentaires faits par Marie-Clémence au bas du Cameroun, parce que après l'intervention du pasteur Célé au moment Christine, ça sera la dernière intervention. Pasteur Célé au moment Christine, vous avez la parole.
Oui, merci papa et Gaston pour la parole. Juste le tout dernier verset, nous voyons que Ésaü et Jacob vont ensevelir leur père Isaac ensemble. La hache de guerre est enterrée. Ils sont tous unis autour de leur de funérailles de leur père. Ça, c'est un exemple à suivre. Ceux qui étaient en conflit l'autre fois, ils sont unis et c'est vraiment un exemple à suivre parce qu'on a déjà vu, même lors des funérailles, les enfants de même père, de même mère qui se déchirent et qui ne font pas le respect de leur père. Et ici, ils nous montrent vraiment un exemple à suivre. Amen.
Amen. Suivons cet exemple. Si l'Éternel nous a donné ce passage, c'est parce que nous devons tirer des leçons et les mettre en pratique. Nous devons obéir à cette parole. Merci beaucoup, pasteur Célé. Sœur Louboula, pourriez-vous nous lire les commentaires du jour de notre sœur Marie-Clémence du Cameroun?
Oui, papa Gaston. Je vais lire. Épreuve et signe de maturité. Accouchement et mort de Rachel. Après la mort de sa nourrice qui lui tenait lieu de mère, Jacob perd la femme de sa vie. Dieu répond à la prière de Rachel en lui accordant un second fils, fruit de ses entrailles. Mais il ne verra pas cet enfant parce qu'elle meurt en couche. Au comble de la douleur et de l'agonie, elle veut donner à l'enfant un nom douloureux, Benoni, fils de ma douleur. Jacob préfère un nom d'honneur et de gloire, Benjamin, fils de ma droite. La douleur fragilise la foi de Rachel, mais Jacob conserve sa confiance en Dieu. Comportement scandaleux. Dina, Siméon, Lévi, puis voici Ruben, l'aîné. Les enfants de Léa troublent la famille à cause des problèmes de sexe. Si à Sichem, Siméon et Lévi provoquent violence et mort pour venger leur sœur Dina, déshonorée, c'est Ruben qui, ici, découvre la couche de son père. À cause de ces délits, Jacob les disqualifia du droit d'aînesse. Comment gérez-vous vos désirs sexuels? Une libido mal contrôlée est souvent source de dommages imprévisibles, chagrin, humiliation, maladie, mort et d'honneur perdu. Hébron, de retour au bercail, Jacob retrouve son père avant qu'il ne meure. La réconciliation avec Ésaü permet aux deux frères d'enterrer leur père dans la dignité et l'unité. Combien de deuils ne sont pas un champ de bataille familiale en Afrique? Comme Ésaü et Jacob, faisons notre querelle et occupons-nous de nos parents dans la dignité. Réflexion. Comment réagis-tu dans les moments difficiles? Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur, pour la lecture de ce commentaire. Nous allons passer la parole au pasteur Célé. Il nous reste presque 3 minutes. Pasteur, j'aimerais si nous pouvons faire une présentation.
Ok. Merci. Tu veux que je le fasse?
Oui, pasteur.
Ok, pas de problème. Donc, on commence avec ceux qui sont en train de nous suivre en direct à la radio. Donc, le frère et sœur de Missouri, de Maryland, de Québec aussi, soyez bénis là où vous êtes. Et puis, sur le plateau, nous regardons ceux qui ne sont pas en mute dans un premier temps. La sœur Ruth, où est-ce que tu es?
Ontario, Canada.
Ok, merci. Sœur Boula.
Ottawa, Ontario, Canada.
Ok, merci. Frère Grégoire.
Montréal, Canada.
Ok, merci. Sœur Kaba.
Maryland, États-Unis.
Ok, merci. Sœur Monseca ou Frère Michel.
San Antonio, Texas, États-Unis.
Ok, merci. Sœur Marie Chikena.
Montréal, Canada.
Ok, merci. Sœur Agnès.
Atlanta, États-Unis.
Ok, merci. Frère Thomas.
Nidel, North Carolina, États-Unis.
Ok, merci. Pasteur José d'Ottawa.
Ottawa, en Ontario, au Canada.
Ok. Et le pasteur José des États-Unis?
Je suis à Raleigh.
Ok, merci. Annabelle?
Je suis à Minneapolis, États-Unis.
Ok, merci. Commençons avec les frères et sœurs qui sont en mute. Sœur Laetitia?
Ottawa, Ontario, Canada.
Ok, merci. Sœur Rose. Sœur Rose.
Oui, j'écoute.
Oui, où est-ce que tu y es?
Pardon?
Où est-ce que tu y es?
Oui, je suis là.
Oui, tu es à Calgary, j'espère.
Oui.
Ok, merci. Donc, on faisait la présentation.
Ah, ok. Calgary.
Ok.
Okay.
Christine et Célestin, nous sommes aussi à Calgary, Canada. Papa Gaston, c'est ton tour maintenant.
Gaston et José, Elmer, Québec, Canada. Merci. Pasteur, pouvez-vous nous recommander entre les mains de Dieu? Pasteur Célé.
Okay, merci. Notre Dieu, merci pour ce qui nous a encore donné beaucoup d'enseignements sur la vie de cet homme que tu as choisi pour la destinée de toute l'humanité. C'est au travers de lui que le salut va venir pour le monde. Mais nous voyons combien il passe des moments difficiles, des moments pénibles pour temps, c'est un homme qui a marché avec toi en allant vers chez son beau-père Laban, tout comme au retour. Mais nous voyons des moments difficiles, même dans sa maison, son fils qui fait des choses vraiment ignobles. Pourtant, tu y es présent et tu regardes combien le péché est en train de ronger la maison de ton serviteur. Oh, le diable est en action, mais heureusement que tu le conduis et tu le fortifies jusqu'à la fin de sa vie. Merci pour cet exemple de ce qu'ils peuvent tous les deux, dans l'unité, enterrer dignement leur père. Quel bel exemple, notre Dieu, pour ceux qui y ont encore des parents, qui ont même des oncles, qui peuvent passer par le moment de deuil. Ce sont des moments où nous devons montrer notre amour, montrer aussi combien nous appartenons à Dieu et nous aimons ceux de nos familles. Merci notre Dieu pour tous tes bienfaits au travers de ce texte. Nous nous recommandons à ta grâce pour toute la semaine que nous avons commencé aujourd'hui. Merci pour ceux de nous qui ne sont pas là, que tu bénis. Merci pour ceux qui sont à la radio, qui sont fidèles à ta parole, que tu bénis aussi, Seigneur de gloire. Que ta gloire et ta grâce nous accompagnent. Cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour la prière. Le passage de demain, c'est dans Genèse 36, versets 1 à 43. Ce passage vient avec deux questions, la question 3 et 7. Merci beaucoup et bonsoir à tous.
Merci. Bonsoir, merci.